Voici une question dont la réponse nous aidera à faire notre part dans la société. Qu'est-ce que ça prendrait pour que le sens moral de la société s'améliore de nos jours? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse des plus intéressantes aujourd'hui à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone sans frais au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. J'aime vraiment tout ce qu'on apprend au sujet de l'apôtre Paul dans le livre des Actes. Quel beau modèle il est pour nous! Voici quelques questions qu'on va poser à la parole de Dieu aujourd'hui, et je suis certaine qu'on ne sera pas déçus des réponses. Est-ce que Dieu désire guider notre vie autant qu'il a guidé celle de l'apôtre Paul? Devons-nous tous nous attendre à une expérience extraordinaire et émotionnelle, comme celle qu'a vécue Paul? De quoi avons-nous besoin pour que le sens moral de la société s'améliore? Est-il possible d'être doux et humble tout en dénonçant l'injustice? Est-ce que les croyants doivent respecter les autorités? Est-ce que nous manquons de foi quand nous utilisons les moyens qui sont à notre disposition pour accomplir la volonté de Dieu? Demeurez à l'écoute. Le pasteur Jean Joly est sur le point de nous donner les réponses de la parole de Dieu à toutes nos questions. Mais premièrement, demandons à Dieu de toucher nos cœurs lui-même par sa merveilleuse parole. Prions. Oui, Seigneur, on veut entrer en communion avec toi et on désire, on te demande que tu touches nos cœurs par ta parole, que tu nous fasses du bien et que tu nous apprennes à connaître ce qui te fait plaisir pour qu'on puisse l'accomplir avec joie. On t'aime, Seigneur. Amen. À toi, Réjean.
Merci, Caro. À la dernière émission, Paul dut faire face à une foule en colère après qu'il eût été aperçu au temple. Paul y était afin de présenter des offrandes, car il avait fait un vœu et les Juifs d'Asie ont pensé que Paul avait amené Trophime, un non-juif, au temple, ce qui était un sacrilège à leurs yeux. La foule voulait tuer Paul, mais un tribun est arrivé avec les soldats. Il a enlevé Paul des mains de la foule et il l'a arrêté pensant qu'il avait commis un crime grave. Cependant, il s'est vite rendu compte que Paul n'était pas le chef des brigands recherchés par la loi, et qu'il était un juif et un citoyen romain. Paul est maintenant un prisonnier, et nous allons le suivre dans ses tribulations jusqu'à la fin du livre des Actes. Aujourd'hui, Paul va se défendre devant le Sanhédrin, que le tribun a convoqué afin de comprendre de quel crime Paul est accusé. Certains pensent que Paul était hors de la volonté de Dieu lorsqu'il est allé à Jérusalem. Paul accomplissait-il la volonté de Dieu, oui ou non? Je pense que Paul marchait dans la volonté de Dieu, et cela se confirmera par différents événements. Le fait qu'il ait été arrêté, qu'il subisse des tribulations, ne signifie pas qu'il était hors de la volonté de Dieu. Le Dieu qui a guidé la vie de Paul désire guider aussi notre vie. Au fur et à mesure que nous le suivrons dans sa captivité, nous verrons que la main de Dieu était dans tous les événements. Le Dieu qui a guidé la vie de Paul désire guider aussi votre vie ainsi que la mienne. C'est ce qui est merveilleux, mes amis. Alors que nous allons selon notre train quotidien, Dieu agit dans nos vies. D'une certaine façon, la plupart d'entre nous vivons humblement et nous avons des vies routinières. Cependant, Dieu se soucie de nous et s'intéresse à nous. Dieu veut nous guider à travers les éléments complexes de notre culture contemporaine. Aujourd'hui, nous avons besoin de cette aide plus que jamais. De nombreuses personnes recherchent une expérience extraordinaire et émotionnelle comme celle qu'a vécue Paul. Je ne crois pas que nous ayons besoin de cela, et je pense que la plupart d'entre nous n'en auront jamais une. C'est par la foi que nous venons à Jésus-Christ, et c'est par la foi et la confiance que nous suivons ses voies. Il va nous guider dans notre vie quotidienne. Nous avons vu comment le tribun a arrêté Paul, l'a conduit à la prison et il était pour le faire fouetter. Il a changé d'idée lorsqu'il a appris que Paul est un citoyen romain. Il fut étonné de rencontrer un juif, citoyen romain, qui parlait le grec. Maintenant, le Sanhédrin, formé de chefs religieux, veut le faire condamner. Paul essaie en vain d'expliquer sa conduite au Sanhédrin. Le Seigneur l'encourage, mais les Juifs vont ourdir un complot afin d'assassiner Paul. Apprenant cela, le tribun transférera Paul à Césarée. C'est Félix, le gouverneur, qui examinera le cas de Paul. Chers amis, débutons notre lecture d'aujourd'hui, Actes chapitre 23, versets 1 et 2. Paul, les regards fixés sur le Sanhédrin, dit « Homme frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. » Le souverain sacrificateur Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Paul comparaît devant le Sanhédrin, et le souverain sacrificateur est présent. La conduite du grand prêtre est ignoble. Il ne laissait pas Paul parler avant qu'il le veuille bien. Verset 3. Alors Paul lui dit, « Dieu te frappera, muraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi, et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. » Selon la loi romaine, un homme ne pouvait être puni et condamné avant d'être reconnu coupable. Ceux qui arrêtaient un homme accusé d'un crime ne pouvaient le maltraiter. La loi romaine était juste sur bien des points. Cependant, cet incident et le procès de Jésus montrent que le système judiciaire pouvait dériver. La justice dépend de celui qui fait observer la loi. Il faut renouveler le cœur de l'homme, non améliorer le gouvernement. Aujourd'hui, la plupart pensent que l'on peut améliorer la société en modifiant la manière de gouverner ou en portant un autre parti politique au pouvoir. Cela fut fait dans le passé, et jamais rien n'a été résolu. À l'origine, au Canada, nos lois étaient fondées sur les valeurs morales judéo-chrétiennes. Les législateurs, sans être nécessairement nés de nouveau, croyaient à l'existence de Dieu et avaient une certaine crainte de celui-ci. Nous ne retrouvons plus cette crainte de Dieu chez nos élites politiques. Nous nous demandons pourquoi tout va mal et nous voulons réformer le système. Savez-vous ce dont nous avons vraiment besoin? Nous avons besoin que Dieu change notre cœur. Ce n'est pas le système qu'il faut modifier, mais le cœur de l'homme qu'il faut renouveler. Le souverain sacrificateur ordonne que l'on frappe Paul sur la bouche et Paul dénonce fortement son attitude. Ceci démontre que Paul, quoique humble, n'était pas un faible qui se laissait bousculer. En fait, être humble et doux consiste à se soumettre à la volonté de Dieu, qu'importe le prix à payer. Paul était cet homme. Il était un homme humble et doux, mais il ne subissait pas d'injustice sans les dénoncer. Paul traite le prêtre de muraille blanchie. « Tu violes la loi mosaïque, tout en me jugeant selon celle-ci. » La réponse de Paul a démontré qu'il connaissait la loi. Un homme ne peut être ni condamné, ni puni avant qu'un verdict soit rendu. Revenons à notre texte. Le livre des Actes, chapitre 23, verset 4. Ceux qui étaient près de lui dirent, « Tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. » Paul, ignorait-il que l'homme qui a ordonné qu'on le frappe était le souverain sacrificateur? Pour une raison quelconque, il semble ne pas l'avoir reconnu. Selon J. Vernon McGee, l'auteur de nos textes, la raison la plus probable est la vue de l'homme. L'Épître aux Galates suggère que Paul avait peut-être une maladie des yeux car il ne voyait pas bien. Nous trouverons d'autres indications de ce problème de vue dans les Épîtres. Pour l'instant, poursuivons notre lecture. verset 5. Et Paul dit, « Je ne savais pas, frère, que ce fût le souverain sacrificateur, car il est écrit, « Tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. » Paul connaissait la loi dans ses moindres détails, et il savait que le souverain sacrificateur devait être respecté. Nous aussi, nous devons respecter nos autorités. C'est une autre chose que nous oublions aujourd'hui. Nous devrions respecter davantage les autorités. Certains, tels que J. Vernon McGee, pensent que l'on ne devrait pas faire de caricature, se moquant des décisions prises par les politiciens. Les êtres humains devraient respecter l'autorité. Paul a écrit, « Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. » Romains chapitre 13, verset 7. Paul a écrit ces mots lors du règne de Néron, un empereur qui souffrait de folie selon certains historiens. Verset 6. Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de sadducéens et l'autre de pharisiens, s'écria dans le Sanhédrin. « Homme frère, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. » Le père de Paul était aussi un pharisien et probablement un homme assez bien nanti, ayant une grande influence. Paul se sert de l'animosité entre les pharisiens et les sadducéens pour se défendre. Ici, Paul ne parle pas de la résurrection de Jésus-Christ. En fait, les pharisiens croyaient que les morts ressusciteraient, ce qui n'était pas le cas avec les sadducéens. Paul a transformé le procès en un débat entre les fondamentalistes et entre les théologiens libéraux de son temps. Ce ne fut pas difficile à faire. Ce fut toujours facile d'amener ces deux groupes à se prendre à la gorge, et Paul a très bien réussi à le faire. Versets 7 à 9. Quand il eut dit cela, il s'éleva une discussion entre les pharisiens et les sadducéens, et l'assemblée se divisa. Car les sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection et qu'il n'existe ni ange ni esprit, tandis que les pharisiens affirment les deux choses. Il y eut une grande clameur, et quelques scribes du parti des pharisiens, s'étant levés, engagèrent un vif débat et dirent, « Nous ne trouvons aucun mal en cet homme. Peut-être un esprit ou un ange lui a-t-il parlé. » Maintenant les pharisiens défendent Paul. Lorsqu'ils apprennent qu'il est pharisien, ils se rallient pour le défendre. Verset 10. Comme la discorde allait croissant, le tribun, craignant que Paul ne fût mis en pièces par ses gens, fit descendre les soldats pour l'enlever du milieu d'eux et le conduire à la forteresse. La discussion devint très violente. C'est probablement la pire rapportée dans la Bible. La vie de Paul est en danger, donc le tribun demande aux soldats de ramener Paul à la forteresse. J'ai défendu le concept de la séparation de l'Église et de l'État. J'approuve l'État qui sauve la vie de Paul dans ce cas-ci. C'était la chose à faire, donc le tribun n'a pas appris ce que l'on reprochait à Paul. Verset 11. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, « Prends courage, car... « De même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. » Voilà un encouragement divin qui démontre que Paul accomplissait le plan de Dieu en allant à Jérusalem. Paul a choisi de poursuivre sa route vers Jérusalem alors que l'Esprit l'avertissait que des liens et des tribulations l'attendaient. Maintenant, Dieu lui annonce qu'il devra témoigner à Rome comme il l'a déjà fait à Jérusalem. Dieu ouvre la porte afin que Paul témoigne de Jésus-Christ à Rome. C'est la volonté de Dieu qu'il aille à Rome. Notez que le Seigneur ne fait aucun reproche à Paul. Il ne dit pas, « Paul, je t'avais averti de ne pas mettre les pieds à Jérusalem, car tu aurais des ennuis dans cette ville. » Le Seigneur encourage plutôt son serviteur. C'est le moyen qu'il emploie pour que Paul se rende à Rome. Verset 12. Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes, en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils aient tué Paul. Ces pauvres Juifs ont dû crever de faim car Dieu a protégé Paul. Versets 13 à 15. Ceux qui formèrent ce complot étaient plus de 40 et ils allèrent trouver les principaux sacrificateurs et les anciens auxquels ils dirent « Nous nous sommes engagés avec des imprécations contre nous-mêmes à ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. » Vous donc, maintenant, adressez-vous avec le Sanhédrin au tribun pour qu'il l'amène devant vous, comme si vous vouliez examiner sa cause plus exactement. Et nous, avant qu'il approche, nous sommes prêts à le tuer. Ces Juifs complotent afin de faire périr Paul, mais le Seigneur a un autre plan. Paul ira à Rome et y proclamera l'Évangile. Versets 16 à 18. Le fils de la sœur de Paul, ayant eu connaissance du guet-apens, alla dans la forteresse en informer Paul. Paul appela l'un des centeniers et dit, « Mène ce jeune homme vers le tribun, car il a quelque chose à lui rapporter. » Le centenier prit le jeune homme avec lui, le conduisit vers le tribun et dit, « Le prisonnier Paul m'a appelé et il m'a prié de t'amener ce jeune homme qui a quelque chose à te dire. » Paul va de nouveau exercer ses droits de citoyen romain, et cela est très légitime. Nous apprenons aussi que Paul a une sœur et un neveu à Jérusalem. Versets 19 à 22. Le tribun, prenant le jeune homme par la main et se retirant à l'écart, lui demanda, « Qu'as-tu à m'annoncer ?» Il répondit, « Les Juifs ont convenu de te prier d'amener Paul demain devant le Sanhédrin, comme si tu devais t'enquérir de lui plus exactement. Ne les écoute pas, car plus de 40 d'entre eux lui dressent un guet-apens et se sont engagés avec des imprécations contre eux-mêmes à ne rien manger ni boire jusqu'à ce qu'ils l'aient tué. Maintenant ils sont prêts et n'attendent que ton consentement. » Le tribun renvoya le jeune homme après lui avoir recommandé de ne parler à personne de ce rapport qu'il lui avait fait. Le tribun apprend ici les détails du complot. Prendre les moyens naturels que Dieu nous donne n'est pas un manque de foi. Arrêtons-nous ici quelques instants. J. Vernon McGee, le prédicateur, l'auteur de nos textes, souffrait d'un cancer. Des chrétiens super pieux et bien sincères lui disaient qu'il ne devrait pas consulter des médecins, mais placer entièrement sa foi en Jésus-Christ. Bien que notre frère, dans la foi, faisait confiance au Seigneur, il a remis son sort entre les mains de notre médecin céleste. C'est lui qui nous a donné des médecins, donc ils peuvent être les instruments de Dieu. Alors, vous pouvez faire confiance en ces hommes qui ont étudié cette science. Dieu le leur ayant donné cette capacité. C'est lui qui donne les médecins. Paul aurait pu facilement dire à son neveu, « Merci bien de m'avertir, mais je fais confiance au Seigneur. Tu peux entrer à la maison. » Mais nous voyons que Paul fait appel au privilège que lui accorde sa citoyenneté romaine. Le Seigneur nous pourvoit avec certains moyens, et il s'attend à ce que nous les utilisions. Utiliser des moyens ne signifie pas que nous n'avons pas la foi en Dieu. Nous avons confiance que Dieu va utiliser les moyens qu'il nous a donnés pour accomplir sa volonté. Il faut du discernement, chers amis. Ayez les regards sur Dieu. Et tout autour de vous, voyez cette main de Dieu agissante à travers les situations, les circonstances et les personnages qui nous entourent. Le tribun passe à l'action immédiatement et il prend les mesures nécessaires afin de protéger Paul. Versets 23 et 24. Ensuite, il appela deux des centeniers et dit, « Tenez prêt, dès la troisième heure de la nuit, 200 soldats, 70 cavaliers et 200 archers pour aller jusqu'à Césarée. Qu'il y ait aussi des montures pour Paul, afin qu'on le mène sain et sauf au gouverneur Félix. » Le Seigneur a protégé Paul en pourvoyant une armée pour l'escorter. Paul a fait ce qu'il fallait faire. Paul va donc à Césarée et les Juifs devront s'adresser au gouverneur Félix. Il est en route vers Rome. Versets 25 à 35. Il écrivit une lettre ainsi conçue. Claude Lysias, au très excellent gouverneur Félix, salut. Cet homme, dont les Juifs s'étaient saisis, allait être tué par eux lorsque je survins avec des soldats et le leur enlevai, ayant appris qu'il était romain. Voulant connaître le motif pour lequel ils l'accusaient, je l'emmenai devant leur sanhédrin. J'ai trouvé qu'il était accusé au sujet de questions relatives à leur loi, mais qu'il n'avait commis aucun crime qui mérite la mort ou la prison. Informé que les Juifs lui dressaient des embûches, je te l'ai aussitôt envoyé, en faisant savoir à ses accusateurs qu'ils ont à s'adresser eux-mêmes à toi. Adieu. Les soldats, selon l'ordre qu'ils avaient reçu, prirent Paul et le conduisirent pendant la nuit jusqu'à Antipatrie. Le lendemain, laissant les cavaliers poursuivre la route avec lui, ils retournèrent à la forteresse. Arrivés à Césarée, les cavaliers remirent la lettre au gouverneur et lui présentèrent Paul. Le gouverneur, après avoir lu la lettre, demanda de quelle province était Paul. Ayant appris qu'il était de la Cilicie, « Je t'entendrai, dit-il, quand tes accusateurs seront venus. » Et il ordonna qu'on le garde dans le prétoire d'Hérode. Désormais, Paul témoignera et proclamera la parole plutôt que de se défendre. Comme le Seigneur l'a annoncé, Paul présente l'Évangile au roi et au gouverneur. Il est dans le plan de Dieu. Paul a profité de ses comparutions pour le faire. Dieu a donné aux politiciens l'occasion de se repentir. Et Dieu n'a pas de favoritisme. Il s'adresse à quiconque veut bien entendre son message. Tout comme toi, aujourd'hui, tu es là, placé, à l'écoute de ce message divin. Il t'appelle à la repentance et à croire en lui seul. Que vas-tu faire de ce message? Que vas-tu faire de cette invitation? Dieu t'appelle. Peu importe ta situation, peu importe l'occupation, peu importe l'être que tu es, Dieu s'adresse à toi aujourd'hui. Il appelle le pécheur à se repentir de ses péchés et à se tourner vers lui pour l'accepter et croire en un Dieu sauveur et Seigneur, en la personne de Jésus-Christ. Dieu a permis que Paul se rende jusque devant les hauts placés de son temps, devant les autorités, afin qu'il puisse y présenter le message de Dieu, l'Évangile, la bonne nouvelle. Dieu fait la même chose aujourd'hui. Il permet que son Évangile soit répandu par le moyen efficace aujourd'hui qu'est la radio, les médias, et il place les auditeurs devant cette position d'y faire un choix. Oui, Dieu plaçait l'apôtre Paul avec son témoignage afin que ses interlocuteurs puissent y répondre. Aujourd'hui, il fait exactement la même chose à travers ses émissions radiophoniques. Il nous place devant son témoignage, nous dit l'apôtre Jean dans son épître, 1 Jean chapitre 5, où Dieu nous place devant son témoignage. C'est Dieu qui rend témoignage personnellement concernant son Fils, le Seigneur Jésus. Et il nous est dit de croire, d'accepter ce témoignage. Je vous fais part juste d'un verset. Verset 11. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Choisis la vie. Chers amis, prochaine émission, Actes chapitre 24, versets 1 à 27.
Merci, Régent. C'est vraiment encourageant de savoir que le Dieu qui a guidé la vie de Paul veut aussi guider notre vie. Il faut bien sûr qu'on le laisse faire. J'ai trouvé ça bien intéressant quand Régent a mentionné qu'on pouvait être humble tout en ne se laissant pas bousculer. Justement, dernièrement, alors que je me préparais à animer une émission, j'ai pris une petite pause et je suis allée chez un fleuriste pour choisir des fleurs pour l'anniversaire d'une amie. et j'ai demandé au fleuriste de livrer les fleurs après 17 heures, pour être certain qu'il y aurait quelqu'un à la maison, puisque c'était le jour même de l'anniversaire. On m'a promis que les fleurs seraient livrées en début de soirée. Le fleuriste m'a indiqué qu'il fermait à 16h30, mais que le livreur appellerait chez la personne jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un à la maison pour les recevoir. Toujours est-il que quelqu'un a appelé chez mon amie à 16h33. Elle a constaté ça par son afficheur quand elle est arrivée chez elle. Et ensuite, personne n'a rappelé et les fleurs n'ont pas été livrées. Je vous raconte ceci parce que si cet incident était arrivé il y a quelques années, j'aurais cru qu'en tant que chrétienne, il valait mieux laisser tomber et ne rien dire. Mais cette fois-ci, quand j'ai parlé à mon amie, elle m'a encouragée à les appeler le lendemain et à leur laisser connaître mon insatisfaction pour un service pour lequel j'avais payé. Et c'est ce que j'ai fait sans me sentir coupable. J'ai fait comme l'apôtre Paul qui ne subissait pas d'injustice sans dire aux gens qu'il voyait l'injustice qu'il commettait à son égard. Bien sûr, je n'ai pas subi une grosse injustice comme celle commise envers Paul, mais j'ai toutefois exigé qu'il s'assure d'envoyer des fleurs fraîches et non celles de la veille qui étaient sûrement un peu défraîchies le lendemain. Après tout, c'était ce pourquoi j'avais payé et j'avais le droit d'exiger qu'on me donne satisfaction. Et mon ami a reçu de belles fleurs fraîches. Bien sûr, j'ai aussi choisi de leur pardonner leur erreur et le fait qu'ils n'ont pas offert de compenser pour le fait que mon ami a reçu ses fleurs le lendemain de son anniversaire. Après tout, quand Jésus a appris à ses disciples à prier, il leur a dit, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Vous pouvez lire ceci dans le 6e chapitre de l'Évangile de Matthieu, au verset 15 et 16. Dieu est juste en toutes choses, il est parfait. Et Jésus nous dit, encore dans l'Évangile de Jean, cette fois-ci au chapitre 5, verset 48, « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Je sais que je suis loin d'être parfaite, mais je fais tous mes efforts pour y arriver. Paul nous a dit dans sa 2e épître aux Corinthiens, au chapitre 13, verset 11, « Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. » Mon ami, est-ce que le Dieu de paix est avec toi? As-tu reçu le pardon de tes péchés, le don gratuit de la vie éternelle? Aimerais-tu les recevoir en ce moment? Tu sais, c'est pour toi que Jésus, le Fils de Dieu, Dieu fait homme, s'est laissé crucifier sur une croix, afin de payer la dette de tes péchés. Il est mort sur la croix, mais il est ressuscité le 3e jour, et maintenant il est vivant, il s'invite chez toi. Alors repens-toi, demande-lui de te sauver, de te donner la vie éternelle. Reçois Jésus comme ton sauveur, comme ton Seigneur.
Caro, nous invitons les auditeurs à assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un déjeuner de l'espoir?
C'est justement comme ce que tu viens de dire, Réjean, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que, premièrement, les gens viennent prendre un bon déjeuner gratuitement, en compagnie de gens qui vont les aimer, les entourer, et ensuite on entend un témoignage d'un vécu, le vécu d'une personne. Comme toi, Réjean, la dernière fois que j'ai entendu ton témoignage, j'ai été épaté. J'ai trouvé ça extraordinaire de t'entendre raconter ce que Dieu avait fait dans ta vie, comment il t'avait transformé, et en même temps, ton sens de l'humour qui a transpercé les cœurs et qui a fait rire les gens, qui a fait du bien aux gens. Alors c'est ça un merveilleux déjeuner de l'espoir. Ça vaut la peine de venir entendre ces témoignages. Et je vous le répète, c'est gratuit.
Nous vous invitons donc à venir participer à ces merveilleux déjeuners de l'espoir qui auront lieu à la grandeur du Québec. Comment faire pour savoir où auront lieu ces déjeuners?
Vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647 ou via courriel.
À www.radioespoir.ca. Ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, province de Québec, le G1G 6P2. Au revoir.
Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.